Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'ADECAL est devenue le GIP Technopole. Un changement des statuts adopté il y a quelques jours, mais qui ne change pas la vocation de cette structure chargée de faire le lien entre la recherche, notamment sur la valorisation des ressources naturelles et leur développement économique. Nous allons en parler ce midi dans cette émission avec son président Samuel Népéoun, mais aussi avec un zoom sur la filière crevette. Nous sommes en effet en compagnie de Jean-Louis Chautan, le directeur de l'usine de Provendry-Saint-Vincent, de Pascal Lepitre, le directeur de la SOPAC, et de Chloé Sagliani Liben du cluster Valorga, qui est spécialisé dans la valorisation des déchets organiques. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Samuel Népéoun, quelques mots d'abord sur ce GIP Technopole, un nouveau nom de la DECAL. Je le disais en introduction, un changement de statut, mais pas de vocation principale.
Du tout, ce n'est qu'un changement de structure juridique. Je pense que beaucoup de Calédoniens connaissent la DECAL qui a été créée, je pense, dans les années, fin des années 90, je crois 98, me semble-t-il, qui avait pour vocation d'assurer la promotion de la Nouvelle-Calédonie, d'aller chercher des investisseurs à l'étranger pour investir en Nouvelle-Calédonie. Et puis, quelques temps après, la DECAL, la Technopole a intégré la DECAL et donc la formule associative n'était plus très adaptée par rapport à l'activité de la DECAL et donc on a dû changer la structure récemment et donc on n'entendra plus dorénavant parler à DECAL mais uniquement de la Technopole puisque jusqu'à présent on disait souvent à DECAL Technopole.
Donc voilà. On dit la Technopole maintenant.
Maintenant on dit la
on
Technopole.
On dit même pas GIP.
Si, GIP c'est la structure juridique mais on va dire la Technopole c'est plus simple.
Alors sa vocation n'a pas changé, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre la recherche et un certain nombre de filières qui nécessitent de l'innovation et des débouchés économiques, c'est bien ça ?
Exactement. Et Jean-François, j'aimerais d'abord vous remercier, en tout cas RRB, de permettre à la Technopole d'avoir cette occasion de se faire connaître parce que je crois que dans l'esprit des Calédoniens, peu de gens, et même les professionnels, peu de gens connaissent véritablement ce qu'est la Technopole. Donc merci pour ça. Et effectivement, le rôle de la Technopole, c'est d'assurer le transfert, l'accompagnement, les expérimentations entre la recherche scientifique, donc qui est tout à fait en amont, et puis l'activité économique, quelque chose qui sort de la recherche, qui puisse être valorisé, qui devienne une activité économique industrielle, c'est quand même l'objectif recherché. Et la Technopole, c'est cet outil qui est au milieu, qui permet de faire le lien entre les deux. Donc rapidement, la Technopole aujourd'hui, c'est cinq missions. C'est l'amélioration des pratiques culturales et aquacoles en essayant de privilégier l'utilisation de produits locaux et d'intrants locaux et avec des méthodes alternatives qui permettent d'éviter en particulier l'utilisation d'intrants chimiques. La deuxième mission, c'est d'assurer la fourniture de matériel biologique et sélectionné aux professionnels. Donc ça, c'est important aussi en termes de qualité. La troisième mission, c'est la conservation et l'évaluation et la valorisation des ressources marines et terrestres, parce que la Technopole, c'est le domaine du terrestre et le domaine du marin. Donc il y a 8 secteurs sur la partie terrestre, et 4 secteurs sur la partie terrestre, 4 secteurs sur la partie marine. Et donc on essaie de couvrir les choses d'une manière la plus large possible. La troisième mission, c'est la conservation et la valorisation des ressources marines et terrestres. Je prends l'exemple de la souchothèque, par exemple, pour la partie les microalgues, puisque c'est la DECAL qui travaille beaucoup, décidément.
La Technopole, on va vous reprendre tout au long de l'émission.
Qui travaille beaucoup sur le sujet, notamment avec l'IFREMER et l'IRD. La conservation des tubercules tropicaux, vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on conserve à peu près 400 espèces qui sont conservées soit à Port-Laguerre, soit à Ouagap, vers Pointe-Dimier, dont 260 variétés d'igname. Et puis, il y a le suivi génétique de tout ce qui est abeilles, lupicoréier, et aujourd'hui, même la crevette aussi, il y a un suivi génétique. Comme quoi, le secteur est quand même très, très structuré. La quatrième mission, c'est l'élaboration d'outils d'aide à la décision, donc de produire des données technico-économiques au service des professionnels, et la gestion de la ressource, notamment pour le secteur de la pêche. Et enfin, la dernière mission, c'est l'accompagnement et le suivi des professionnels privés à leur demande. Donc on a le suivi apicole, puisqu'on a le centre apicole de Bogen, mais qui intervient auprès de tous les apiculteurs s'ils le souhaitent. Le suivi aquacole, également par des équipes de la Technopole. Et donc la Technopole met à disposition un réseau d'épidémiologie, de surveillance de la ressource.
Voilà,
donc juste peut-être pour finir, et avant de donner la parole à nos collègues, donc on travaille avec beaucoup de partenaires dans des start-up. Par exemple, j'ai envie de citer la start-up Aura Pacifica qui travaille sur la culture in vitro de la patate douce, le start-up Neofly qui fabrique de la farine, Allofit Solution NC qui développe des plantations sur les endroits où c'est très salin. Donc ça, c'est lié à la montée des eaux, donc c'est un sujet important. L'IAC, par exemple, qui travaille sur des fonds pacifiques sur le tarot résistant au sel. Et là, on a un partenariat avec l'Université de Queensland. Et enfin, le cluster Valorga, qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille sur la transformation des déchets organiques et en relation avec les grandes cultures. Donc, il y a des échanges directement avec les organismes et les grandes cultures. Et je voudrais juste souligner en dernier, dans nos partenaires, les privés, dans la SOPAC, qui est ici avec nous aussi, Pascal Lepit, qui est le directeur de la SOPAC, qui gère essentiellement, enfin, pour beaucoup, la commercialisation de la crevette. Vous avez les Moulins de Saint-Vincent qui sont aussi ici et le SICA, donc les provendiers qui travaillent beaucoup avec nous, avec ces filières en Nouvelle-Calédonie, notamment à travers des tests alimentaires, donc entre les tests et ceux qui vont l'utiliser en fait. Après, et enfin, le groupement des fermes aquacoles avec qui nous travaillons aussi. Donc, en tout cas, je souhaite qu'on puisse découvrir ensemble aujourd'hui ce qu'est véritablement la Technopole.
Voilà, une présentation magistrale de la Technopole et de ses acteurs. Merci beaucoup, Samuel Népéoun. Alors, vous le disiez, on va s'intéresser un peu plus particulièrement à la filière crevette. On sait que c'est un produit d'excellence calédonien, mais qui nécessite évidemment de la recherche, qui nécessite aussi des débouchés économiques. On a plusieurs acteurs de cette filière crevette sur ce plateau, vous l'avez rappelé, notamment Pascal Lepitre, qui est le directeur de la SOPAC. Un mot sur la SOPAC, Pascal Lepitre, c'est vraiment l'organisme chargé de la vente ?
Alors un peu plus que ça, c'est qui est chargé de la surgélation des crevettes que l'on achète aux fermes et de la commercialisation de ces produits sur le marché local et à l'export.
Alors aujourd'hui, quels sont les principaux problèmes que rencontre la filière crevette ? Est-ce que c'est le développement de la souche, la préservation de l'espèce, l'exportation ? Quelles sont les principales difficultés que rencontre cette crevette qui, on le rappelle, est une crevette quand même d'excellence, hein ?
Oui, alors l'export, pour le coup, c'est le bon point, c'est ce qui va bien et c'est ce qui nous permet d'avoir une filière qui soit en bonne santé. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est développer les volumes. Et la Calédonie a suivi un courant un peu inverse à ce qui se passe dans le monde, où le monde, ces 15 dernières années, a multiplié par 4 sa production de crevettes, quand nous, on l'a divisé par 2. Alors, on a un vrai enjeu où toute la filière travaille vraiment de façon très collective et ensemble à améliorer ce point-là, qui est le point noir de la filière. C'est comment on fait pour revenir à 2500 tonnes.
C'est vraiment une question de volume de production, parce qu'aujourd'hui, il y a les besoins et on sait que cette production pourrait être écoulée si elle est produite.
Oui, tout à fait. Oui. Enfin, moi, j'évalue même le potentiel sur le marché en restant un produit haut de gamme à 4000 tonnes.
D'accord. Alors, parmi les enjeux pour arriver à cette production, il y a de nombreux acteurs, notamment la Provenderie Saint-Vincent, vous pouvez peut-être rappeler, Jean-Louis Chautant, ce que c'est que la Provenderie Saint-Vincent exactement ?
Donc, la Provenderie Saint-Vincent, on fabrique des aliments pour animaux de toute espèce. Et donc notamment la crevette.
Alors est-ce que ça veut dire que vous avez des processus particuliers ou des demandes particulières des sociétés aquacoles qui ont besoin d'une nourriture particulière et que vous êtes toujours en train de rechercher la bonne ou la meilleure formule en tout cas existante ?
C'est ça. En fait, il faut qu'on propose aux aquaculteurs le meilleur aliment pour qu'ils aient un meilleur rapport qualité-prix. Donc une meilleure croissance. Chez nous, c'est des élevages qui sont très longs quand même. Donc les crevettes sont nourries très longtemps. Donc on ne fait pas nos formules dans notre coin, on travaille avec des partenaires internationaux. Mais la grosse difficulté qu'on a sur la filière crevette, c'est une filière qui demande des matières premières très particulières, avec des taux de protéines très élevés, et que pour l'instant, on ne produit pas en Calédonie, ou très peu. Et c'est pour ça que la recherche du Technopôle et tout ça est importante, pour qu'on ait de plus en plus de matières premières locales. Parce que ces matières premières sur les marchés internationaux deviennent de plus en plus difficiles à trouver et sont de plus en plus chères.
Alors cette matière première, est-ce que le cluster Valorga, qui est spécialisé justement dans la valorisation des déchets organiques, peut amener quelque chose pour cette filière crevette et justement travailler aussi à trouver cette alimentation qui sera la meilleure possible et la plus saine possible ? Oui. Chloé Sagliben.
Merci. Alors peut-être juste déjà Valorga, donc c'est un cluster, donc c'est une association qui réunit les acteurs autour de la valorisation des déchets organiques. Et donc, on a des filières en local qui permettent de valoriser différents types de déchets organiques. Et si on reste sur tout ce qui est alimentation animale, on a l'exemple de la structure, enfin l'entreprise Récif, qui récupère les déchets de la pêche hauturière et du coup qui les valorise en farine de poisson pour aller après alimenter les provenderies en local. Et on a en alimentation animale la start-up Neofly, donc qui aujourd'hui est toujours en phase start-up, mais pour là, c'est à partir de l'élevage d'insectes qui sont élevés sur des déchets organiques. Et là, c'est les larves qui sont, pareil, récoltées et qui permettent de produire de la farine à destination de l'alimentation animale. On a, enfin, peut-être pas sur la crevette, mais on a l'OCEF aussi qui recycle ses déchets en farine, donc de sang, d'os, etc., qui part aussi en provenderie. Donc oui, on a des filières en local qui évoluent avec le temps et qui permettent de fournir une partie, en tout cas, du marché pour les provenderies.
Alors, les uns et les autres, vous êtes principalement dans votre activité cœur de métier, bien évidemment. Est-ce que cette filière, les acteurs travaillent naturellement les uns avec les autres, ou est-ce qu'il y a besoin, grâce à la Technopole, peut-être de mettre les uns en relation avec les autres pour que les choses soient plus cohérentes possibles, Pascal Lepitre ?
Ben, clairement, pour la filière crevette, il y a un travail collectif qui s'est développé depuis plusieurs années, qui se renforce à chaque année. Et tous les exemples qui ont été cités de Neofly, de Récif, de ce que font les provendiers, de ce que fait l'UPRA maintenant, la Technopole, montrent à quel point cette filière travaille main dans la main. Et c'est un travail collectif qui démarre tout en haut, en amont, avec la recherche. Et là, l'IFREMER intervient au développement. La Technopole intervient pour les programmes de développement. Et puis derrière, c'est les écloseries, c'est les provendiers, c'est les fermes, c'est jusqu'à la SOPAC et jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc oui, c'est fondamental que cette filière travaille ensemble, parce qu'on est quand même une petite filière dans un petit pays. À l'échelle des marchés dans lesquels on reste petit, on est fragile et on n'a pas le luxe de travailler en ordre dispersé, quoi. Donc c'est très important que toutes ces parties prenantes travaillent ensemble.
Jean-Louis Chautant, vous êtes un des maillons finalement de cette filière. Vous devez répondre aux besoins des fermes aquacoles et vous devez aussi trouver la matière première pour réaliser ce dont ils ont besoin. Donc vous êtes un maillon important.
Oui, mais c'est même au-delà de la filière aquacole, c'est l'ensemble des alimentations pour animaux qui sont concernées. Parce que malheureusement, en Calédonie, à part le maïs, rien n'est produit en Calédonie. Donc il faut qu'on trouve, avec le Technopole, il y a des tests qui sont faits. Alors, bien sûr, sur la filière crevette, mais aussi sur d'autres filières. Je prends par exemple des tests de luzerne, de machin, enfin voilà. Il y a tout un tas de tests qui sont faits, qui sont très importants pour nous, parce que nous, plus on aura de matières premières locales, alors de qualité, parce que attention, la filière crevette, elle est très exigeante. On a un cahier des charges qui est très strict, en fait, sur la filière crevette. Alors sur les autres sites, mais sur la filière crevette, c'est très particulier. Donc c'est de plus en plus compliqué aussi pour nous à importer des matières premières qui répondent à ces cahiers des charges.
Est-ce que ça veut dire
plus on aura de matières premières locales, mieux c'est pour nous.
Alors justement, est-ce que ça veut dire aussi que ça peut avoir des impacts sur la filière agricole? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait lancer des cultures qui n'existent pas en Calédonie, mais qui permettraient de répondre aux besoins que vous évoquiez il y a un instant?
Oui, tout à fait. Il y a plein de tests qui sont en cours. Je rappelle, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de maïs fait en Calédonie. Et la filière maïs a été relancée, et bon, c'est un vrai succès. Et donc, il y a d'autres filières. On parle du soja, du blé, enfin voilà, il y a tout un tas de tests sur des matières premières qui sont en cours. Mais ça prend du temps, c'est long, enfin voilà. Mais nous, on est preneurs de tout ça, de tous ces partenariats, on est preneurs à 100%.
Et du côté de la valorisation des déchets organiques, Chloé Sagliben, est-ce qu'on est encore loin d'avoir été jusqu'au bout de ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels les choses pourraient évoluer?
Oui, alors ça évolue beaucoup et ça continuera d'évoluer, mais pour revenir sur l'histoire de partenariat et effectivement, chacun a ses compétences. Donc nous, on travaille aussi pas mal avec la Technopole sur le volet terre, donc production agricole, donc alimentation, qu'elle soit pour l'animal d'ailleurs ou pour les humains. Et donc, on a deux types, en gros, de partenariats avec la Technopole. On peut tester différentes matières organiques locales, donc en termes de fertilisation, etc., sur des cultures, par exemple le maïs, etc., au sein des parcelles de la Technopole, pour éviter... Et là, la Technopole a tout son rôle on fait des essais chez eux, et on ajuste comme ça les itinéraires techniques avec eux, et le risque n'est pas pris par les producteurs de maïs, etc., aujourd'hui, mais par la Technopole, et c'est son rôle d'expérimentation. Après, on a un autre type de partenariat, où là, c'est de la démonstration auprès des agriculteurs, et notamment des essais de nouvelles cultures, où là, nous, on travaille avec eux, on travaille, nous, sur la fertilisation, à partir de matières organiques locales, et après, la Technopole intervient sur, par exemple, le suivi de la culture, l'état sanitaire, les rendement, etc. Donc on arrive vraiment à travailler tous ensemble pour justement trouver des résultats et des filières, nous pour valoriser nos matières organiques locales, mais aussi trouver des débouchés ensuite pour la provenderie, pour l'alimentation humaine, etc.
Alors cet accompagnement de la Technopole, Samuel Lépéoul, elle est de quelle nature ? C'est un accompagnement technique, mais est-ce que ça peut être aussi un accompagnement financier ?
On va dire que c'est plus des partenariats. Chloé vient de l'expliquer. On est à la fois en amont, mais on est aussi en aval. J'insistais beaucoup tout à l'heure quand je présentais l'émission que, quelque part, nous, on intervient à la demande des producteurs qui demandent si on peut faire des essais, si on peut faire de l'expérimentation. Et on peut solliciter des organismes de recherche pour ça, qui vont le faire. Après, comme disait Chloé, on peut faire les tests, ou en tout cas de l'expérimentation, sur des sites Technopole. Et une fois que les protocoles, ou en tout cas le process, il est validé, de pouvoir le transférer et ensuite de continuer à appuyer, accompagner le producteur, même sur site. Ou alors, il peut aussi venir voir les essais qui sont conduits sur les sites de la Technopole. Fouet, par exemple, à Conné, toute la partie mer, il y a des choses qui sont très intéressantes. Pascal Lepitre ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais par exemple, au niveau de la filière crevette, on vient de se rendre compte que il y a un sujet qui est très intéressant, c'est qu'on vient de découvrir que la cohabitation de deux productions telles que la crevette et le picot, c'est quelque chose de très intéressant. Quelqu'un qui se retrouve avec une production à l'origine uniquement de crevettes se retrouve avec dans son bassin en plus 1,5 tonne de picot. En termes de valeur ajoutée, c'est quand même pas neutre.
Oui, expliquez-nous ça, Pascal Lepitre, parce que c'était une découverte un peu fortuite, si j'ai bien compris, ou c'était volontaire vraiment de mélanger dans les bassins des crevettes et des picots?
Alors non, ça a été plutôt une expérience, plusieurs expériences dans des fermes, et effectivement, c'est un peu par hasard qu'on a découvert qu'il y avait compatibilité entre les deux espèces. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça correspondait à un moment où nous, la SOPAC, on cherchait à diversifier notre production. Et là, on a fait appel à la Technopole pour nous aider sur deux projets qui sont prioritaires pour nous en termes de diversification. C'est un pour, dès cette année, enfin 2026, la surgélation de crabes de palétuvier. Et là, on a un vrai soutien de la Technopole, et j'en profite pour remercier la Technopole de tout le travail qu'ils nous font, un travail de fourmi pour mettre tout ça en place, parce qu'on part de rien, et alors qu'il y a un vrai potentiel à l'export de ces crabes. Et puis, je pense que ça prendra plutôt l'horizon 2027, effectivement, le picot, où aujourd'hui il y a un travail vraiment de fond de la Technopole sur l'opportunité d'élargir cette aquaculture. Aujourd'hui, ça bloque un petit peu sur la reproduction, donc c'est le CCD TAM qui est rattaché à la Technopole, qui ferraille pas mal sur cette affaire. Mais on va y arriver, c'est une question de maîtrise technique. Et effectivement, il y a un très très beau potentiel avec une cohabitation picot-crevette qui fonctionne très bien.
Chloé Sagliben, c'est toutes ces choses qui débouchent comme ça, ou qui arrivent de façon fortuite, ou parce que c'est le fruit de la recherche, vous, ça vous oblige aussi à vous adapter éventuellement sur la valorisation des déchets, ou à trouver aussi de nouvelles valorisations ?
En termes de débouchés, par exemple, oui. Après, c'est plus à l'inverse. Aujourd'hui, on a des structures qui valorisent les déchets, qui veulent assurer leurs débouchés, et on rentre en compétition avec l'import. Et du coup, c'est aussi rassurer, on en parlait, la qualité des produits locaux. Donc, on a tout ce travail d'accompagnement et de transfert aussi de l'information qu'on peut faire en local des produits de qualité équivalente, des produits de bonne qualité, en fait. Et donc, on travaille aussi avec la... Enfin, voilà. Après, il y a différents types de partenariats sur différentes filières. Nous, sur la Technopole, on travaille beaucoup plus sur le pôle terrestre que marin, parce que les acteurs sont peut-être plus structurés. En tout cas, nous, on a pris ce rôle-là sur le rôle végétal. Et oui, après, il reste encore plein de déchets à valoriser, de pistes, et ça avancera doucement au fur et à mesure.
Ça avancera doucement, oui, parce qu'il faut un peu de temps pour tester tout ça et être sûr après des process qu'on met en place. Jean-Louis Chautan, vous l'avez expliqué, vous, votre principal problème, entre guillemets, c'est de pouvoir fournir des aliments de qualité à produire à partir de produits locaux. C'est le principal problème, c'est pas une question de volume. Aujourd'hui, vous pouvez traiter des volumes suffisants pour alimenter les différentes filières qui le souhaitent.
Oui, pour l'instant, les matières premières locales qu'on récupère, elles sont suffisantes pour fournir le marché local. Après, ce qui est intéressant avec la crevette, c'est que c'est de l'export. Et comme le dit Pascal, c'est qu'à l'heure actuelle, on est à 1200, 1300 tonnes de crevettes. Mais si on passe à 4000 tonnes, forcément, c'est beaucoup plus d'aliments. Et forcément, ben, pour le marché local, s'il y a des productions de matières premières locales, ben, forcément, ça sera un plus aussi. Hein.
Mais vous, avez la capacité de produire jusqu'aux besoins d'une filière qui produirait 4000 tonnes de crevettes par an.
Oui, oui, tout à fait. Et on est, d'ailleurs, nous, on n'a jamais, Provendry de Saint-Vincent, chaque fois qu'il a fallu faire un test, même si c'est une toute petite quantité sur un produit, pour, voilà, pour justement voir si ça fonctionne, machin, on a toujours été, on a toujours répondu présent, parce que c'est notre rôle, en fait, hein, de valoriser un maximum les matières premières locales.
Pascal Lepi, quand on parle de l'exportation de la fameuse crevette bleue de Nouvelle-Calédonie qui est connue dans le monde entier aujourd'hui, quels sont les marchés les plus porteurs? Quels sont ceux auxquels il faudrait s'attaquer? Est-ce qu'il y a encore des marchés à aller conquérir?
Ah oui, alors là, c'est on a de quoi faire. En fait, on fait encore assez peu de marchés. Ça se concentre vraiment sur le Japon, les États-Unis, l'Europe, quelques pays d'Asie et l'Australie.
Pardon, c'est un produit qui voyage par bateau, hein.
Par bateau, donc on n'a pas été affecté par effectivement l'arrêt des lignes de Air Calin sur le Japon. Donc le Japon reste notre premier marché. Et donc aujourd'hui, c'est plus par défaut de volume qu'on se limite à ces quatre marchés principaux. Mais évidemment, oui, on prospecte déjà la Corée, le Canada, qui sont des pays proches du Japon et des États-Unis. On est bien implantés. La Chine, qui nous sollicite régulièrement, mais qu'on refuse systématiquement parce qu'on n'a juste pas les moyens. Et puis même dans les pays dans lesquels on est installé, comme les États-Unis, pour vous donner un ordre d'idée, on travaille dans une dizaine d'États, alors qu'il y a un potentiel de travailler dans une vingtaine d'États. Donc c'est au compte-gouttes qu'on ouvre les États au fur et à mesure qu'on a du volume disponible à vendre sur ces marchés-là. Donc il y a un vrai potentiel, un, à développer là où on est, et deux, à conquérir des nouveaux marchés.
Quoi. Et combien de temps vous imaginez pour passer de 1200, 1300 tonnes par an à 4000 tonnes par an? Est-ce que ça peut aller vite? Est-ce que ça nécessite plusieurs années? Est-ce que ça nécessite peut-être que de nouvelles fermes aquacoles voient le jour?
Alors je pense que le facteur limitant sera le temps dans la production, parce que c'est long d'investir dans les fermes, c'est long d'améliorer les rendements, c'est tout un travail collégial mais qui prend du temps. Donc là on voit bien, on est encore un peu bloqué sur 1200 tonnes et ça prend du temps à développer ces volumes. Effectivement après il faut un peu de temps aussi pour les marchés d'absorber ça se fait pas du jour au lendemain, mais je dirais si on s'inscrit dans l'objectif de la filière qui est d'atteindre 2500 tonnes à l'horizon 2030, c'est tout à fait gérable sur un plan commercial. Et si les 4000 tonnes, on les atteint dans 10 ans, ça sera tout à fait gérable au niveau des marchés pour absorber un volume qui peut paraître important, 4000 tonnes, mais 4000 tonnes, c'est sur un marché qui aujourd'hui fait 8 millions de tonnes. Oui. Donc c'est une goutte d'eau, on n'existe même pas, on est sous le radar.
D'où la nécessité aussi d'avoir une qualité qui fait que la crevette se démarque peut-être d'autres crevettes dans le monde.
Exactement. Nous d'ailleurs, de toute manière, on ne regarde que le marché des produits haut de gamme, des crevettes haut de gamme, donc on ne regarde pas le gros des volumes. Et aujourd'hui, on l'estime à peu près à 400 000 tonnes. Donc le marché des crevettes haut de gamme, c'est 400 000 tonnes dans le monde. Alors voyons, on cible 1%.
Samuel Lépéon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, c'était... Pascal Lepitre l'a déjà précisé, effectivement, ça discute beaucoup en ce moment au sein de la filière crevette sur cet objectif d'essayer d'atteindre les 2500 tonnes à horizon 2030. Mais ça veut dire quoi, aller chercher 2500 tonnes? Ça veut dire de nouvelles fermes, ça veut dire peut-être une nouvelle écloserie. Donc il y a ce qu'on veut, ce sur quoi on veut se projeter, mais il y a aussi la filière dans son état actuel. Il y a quelques écloseries qui ont quelques difficultés. Donc il faut à la fois structurer les écloseries existantes, certainement peut-être en envisager une de plus, et surtout deux centres de production de plus, parce que l'équipe actuelle n'est pas suffisante. Mais en tout cas, ce qui est en tout cas très encourageant pour l'avenir, comme vient de le dire Pascal Lepitre, c'est que le potentiel mondial est énorme. Aujourd'hui, on est presque à se limiter, parce qu'on n'a pas la production pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés. Donc on y va avec prudence, mais on a on a cet atout, c'est qu'on a un produit de qualité, de très haute valeur ajoutée. Et donc, en termes de marché de niche, je pense qu'on est plutôt bien positionné.
Mais ça veut dire que tous les acteurs qui interviennent dans cette filière, il y en a quelques-uns autour de la table, doivent monter à la fois en compétences, en qualité et en volume.
Elle est déjà, je pense qu'elle est déjà par rapport à certaines époques, elle est déjà plutôt, ce que disait Pascal Lepit tout à l'heure, c'est une filière qui est déjà pas mal structurée aujourd'hui. Et en plus, le fait qu'on ait l'UPRA crevette qui s'est montée aussi, qui permet d'avoir ce suivi de la souche, et que, on va dire, l'accompagnement scientifique, l'accompagnement recherche, elle est présente, on a tous les éléments pour. Je pense que demain, ça sera plus, si on veut se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là à horizon 2030, ça va être d'aller solliciter les collectivités, parce que c'est quoi la stratégie de la province sud par rapport au développement aquacole, parce que le développement économique, c'est quand même de la compétence des provinces.
Et on parle beaucoup de diversification de l'économie.
Voilà, quelle est la stratégie de la province sud, quelle est la stratégie de la province nord, les deux nouvelles fermes, on les met où, la nouvelle écloserie, si on doit en construire une, on la met où, donc il y a tout ce projet d'investissement aussi qu'il va falloir lancer, mais quelque part, l'organisation de la structure crevette aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je la trouve plutôt bien structurée.
Mmh. Un mot pour terminer, Pascal Lepitre, la crevette bleue a son magazine maintenant, il a été lancé hier, c'est bien ça ?
Oui, hier soir. Alors, c'est pas notre magazine.
Non, mais
il se
trouve
que
voilà,
Néocéan, effectivement, après plusieurs publications en ligne, s'est lancé dans la publication papier. Donc, c'est une première, effectivement. Et hier soir, effectivement, il y a eu un bel événement qui a mis en avant cette filière crevette, qui est magnifique. Enfin, moi, je vois ce produit. J'ai tellement de plaisir à le vendre à l'étranger. Ça fait 35 ans que je vends des produits agroalimentaires de haut de gamme à l'international, et c'est la première fois que j'ai un produit qui se comporte comme ça sur les marchés. C'est un grand plaisir, c'est fantastique. Et moi, ce qui me plaît beaucoup et qui mobilise beaucoup le personnel de la SOPAC, c'est que on est sur une activité économique de brousse. Les provendiers sont en brousse, les fermes sont en brousse, évidemment, les écloseries sont en brousse. La Technopole a son centre de recherche à Koné. Nous, notre usine est à Koné. Et ça, c'est de l'emploi en brousse. Et Dieu sait qu'elle en a besoin actuellement de cet emploi. Alors, si ma foi, on passe à 4000 tonnes, on rentre sur des filières à 10 milliards de chiffre d'affaires, ça commence à être quelque chose de sérieux, quoi. Donc, j'espère qu'on verra ça non seulement pour l'activité commerciale, mais aussi pour la Calédonie.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour nous parler de la Technopole, des filières qu'elle soutient et de cette filière crevette qui est une filière d'excellence, on ne le rappellera jamais assez. C'était le dernier jeudi de l'économie de l'année, donc on termine en beauté avec vous puisque la semaine prochaine, nous serons le 25 décembre et le suivant le 1er janvier. Donc on se retrouvera le 8, mais bien sûr les jeudis de l'économie reprendront dès 2026. Merci à tous les quatre et je vous souhaite une bonne après-midi.